votre émission préférée, CKUT 90.3. Est-ce que vous m'entendez bien à la maison? Oui, vous m'entendez bien. Donc, vous êtes à CKUT 90.3. Ici, Anthony. À côté de moi, Esther.
Bonjour.
C'est l'émission Café, votre émission d'art et culture préférée qui commence. On a quelques minutes de retard, mais on est là. Aujourd'hui, de quoi qu'on va parler, Esther?
Donc, on va parler de Fantasia, le festival de films qui débute le 15 juillet, très, très bientôt, n'est-ce pas? Et on va parler un peu du festival de jazz qui s'achève demain. Et puis, y a, autour du festival, bon, il y a toujours des jazz off, donc on va en parler également.
Et on a un petit bonus, notre acolyte Lynn, qui est à Rimouski, nous a préparé une petite capsule de 8 minutes sur un film qui s'appelle « Les échos du moulin ». Donc on est quand même gâtés, on va être 3 aujourd'hui, là.
Ouais.
Est-ce que tu voudrais qu'on commence avec une proposition de musique du jazz?
Oui, pourquoi pas.
Donc, ce soir à 22h, au studio TD, il y a un spectacle gratuit d'une certaine Lofé. De son vrai nom, Lofé Lynn Johns-Dottir. C'est une compositrice-interprète islandaise. Donc, son premier album, Everything I Know About Love, qui est sorti cette année, propose une douce chansons, je dirais pop jazzy avec une touche de R&B. Avant de vous faire écouter une pièce, en faisant mes recherches sur Lofé, donc le nom de l'artiste, j'ai découvert que ce nom, Lofé, est un nom d'une divinité nordique, Esther. Divinité nordique, Lofé, donc on va en jaser un peu. C'est la déesse serait mariée avec le dieu Farbauti, avec qui elle aurait eu 3 enfants, Loki, Beilis et Elblindi. C'est-tu pas beau, ça?
Wow.
et au fond, l'étymologie derrière Lofé est discutée. Certains disent que ça veut dire les îles aux feuilles, mais d'autres affirment que ce nom fait référence au fait que cette déesse-là, donc Lofé, était à la fois mince et faible. Donc là, je cite, à la fois mince et faible. Pourquoi je le répète? Parce qu'il y a Anguille sous la roche. Parce qu'en tant que total ignorant, j'ai un faible pour cette deuxième option, puisque c'est une belle manière de faire le lien avec la pièce Fragile que je vous propose à l'instant. Donc, on va écouter la pièce Fragile de Lofé, si vous le permettez bien. Bonne écoute!
I'll never
Toujours à l'émission Café 90,3. Ici Anthony à l'appareil. Vous venez d'entendre la chanson L'Ophée. En fait, la chanson Fragile de L'Ophée qui va chanter au Festival de Jazz de International de Montréal ce soir. Je suis avec Esther. Esther, est-ce que tu avais des propositions pour la programmation du Festival d'été?
Ok.
Du festival d'été, du festival de jazz de Montréal.
Ouais, c'est ça, c'est plus précis. Ok. Je suis en train de me connecter.
Ah oui, avec... ok, excuse, je suis trop d'avance, là, c'est ça que tu me dis, là.
Ouais, c'est ça, mais demain, il y a, à 5 heures, il y a un super quartet. Je regarde mes documents.
Ah, mais pendant
c'est,
que...
Je l'ai. Il y a Alex Lefebvre Quartet qui sera en concert demain à 5 heures dans le cadre du festival. Donc, il sera entouré d'une super musicien, comme d'habitude. Eric Hove au saxophone alto, Nick Ferron à la guitare, Al Bourgeois à la batterie. Alex Lefebvre, bien, c'est le bassiste. Il se donne également en concert le 19 juillet, si vous voulez rater demain, à la Place d'Armes. Mais j'ai seulement une interrogation. Sur l'invitation, ça dit midi. OK, est-ce que c'est midi ou c'est minuit? C'est ça, je me dis. Un concert de jazz à la Place d'Armes à midi?
Peut-être. Bien, dans tous les cas, on pourrait peut-être écouter une chanson pour voir à quoi ça ressemble. Moi, je ne sais pas ça ressemble à quoi le
Donc,
quartet.
Donc, demain à 17h, regardez, puisque c'est une adresse que je ne connais pas, mais c'est autour de la place des festivals, ne vous en faites pas, mais regardez le site.
Donc,
c'est
on va l'essayer. On va essayer une chanson d'Alex Lefebvre. Donc, on vient d'entendre un petit peu de Alex Lefebvre Quartet qui va jouer demain au Festival de Jazz, le Festival international de jazz. Je pourrais continuer avec une autre proposition, si tu me permets, Esther. J'ai fait mes petites recherches pour ce soir parce que je sais que vous cherchez des choses à faire ce soir. Donc, je vous propose une certaine Maria José Lergo. Je le prononce vraiment mal, mais bon. Maria José Lergo, et c'est une chanteuse espagnole. Elle est comme rentrée très jeune dans l'univers de la musique par le violon d'abord. Et c'est plus tard qu'elle s'est déplacée vers la chorale. Ce qui l'amena à lancer son premier album en 2020. intitulée Sanación. Elle propose des chansons très comme flamenco, mais toujours avec un fond de pop là, très, très accessible. Donc, vous pouvez aller la voir, Maria José Liergo, au Festival international de jazz à la scène Loto-Québec à 22h ce soir. Donc, pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous présente la pièce « Mi maras perino mi ves ». Est-ce que je le prononce comme faux? Vous pouvez nous appeler pour améliorer mon espagnol. Donc, on écoute « Mi maras pero mi ves ». De retour à Café, il est 6h19. Vous venez d'entendre la chanson Maria José de Maria José Liergo, Mi miras. Désolé mon espagnol encore. Hein. Mi miras perino mi ves de Maria José Liergo. Vous pouvez écouter ce soir au Festival de Jazz de Montréal à la scène Loto-Québec à 22h. On va continuer tranquillement avec des propositions de chansons. À ton tour, Esther?
Oui. Avant de parler Fantasia tout à l'heure, je suis allée à un spectacle Jazz Off et au vice-versa. J'ai un peu improvisé une soirée. Et puis, c'était le projet de Alain Bastien, qui est percussionniste et qui a invité une myriade de bons artistes tels que Eric Cove, Bruno Lamarche, Rémi Jean Leblanc, Jean-Sébastien William. Et puis, ils avaient comme invité spécial Joe Grass, qui est guitariste. Et il est très connu pour jouer la guitare acoustique, parfois la guitare électrique. Mais là, il est très, très, très virtuose dans la guitare slide guitar. C'est mm-hmm. ça, hein?
Oui, guitar, oui, exactement. Ouais.
Et il est incroyable. Donc, quand je suis arrivée c'était la formation qui jouait, Alain Bastien et son groupe. Et puis il disait, ouais, Joe Grass qui va arriver éventuellement. Et là, Joe Grass était à l'autre bout de la salle. Il disait, ah, je suis déjà là. Et là, Alain Bastien disait, ah, ben viens, tout de suite. On t'attendait pour le deuxième set, mais c'était prêt, viens tout de suite. Et puis, ça lui a pris, je ne sais pas, 10 minutes de s'installer, sa guitare et tout.
Il est parti.
Non. Non, seulement pour souligner que lorsqu'il a commencé à jouer avec eux, le spectacle est devenu...
Une autre
dimension. Vraiment, ce que... Oh! Vraiment, tellement
mais
charmant.
L'instrument, le style, là, l'instrument, ouais. Je ne sais pas comment bien le nommer, mais ça crée une ambiance, ça l'impose, même une mélancolie des fois, là. Je l'aime beaucoup.
Et ça apportait une touche de balade parfois. Mm. Et c'est quelqu'un qui a une oreille, une écoute assez incroyable avec les autres musiciens. Mm-hmm. Donc, le jazzy faisait tourner un peu légèrement blues parfois, un peu folk. Personne chantait tout ça, mais c'est quand même des accents, des connotations folk. Non, c'était vraiment extraordinaire.
Je ne sais pas s'il
est déménagé à Montréal. On m'a dit qu'il était originaire du Nouveau-Brunswick.
Ouais.
Mais lorsqu'il vient à Montréal, c'est toujours super souligné. Parfois, il vient pour des festivals. Peut-être qu'il venait jouer au festival de jazz et puis je suis pas au courant de tout le monde, quoi. Évidemment, mais en tout cas, sa présence brille, quoi. Donc, on va écouter une des pièces que j'ai trouvées de lui. Et puis, c'est un cover de Beach Boy. Mm-hmm. Tu veux nous dire le titre?
Oui, au fond, c'est God Only Knows, un classique de Joe Grass.
Et puis, c'est produit par une organisation qui font des concerts qui filme des concerts à l'extérieur. Donc, on voit Joe Grass, c'est la Blogothèque Present, et on voit Joe Grass qui joue dans un arrière-cour, une ruelle. C'est tout à fait charmant. Bonne écoute.
On écoute. Thank you. Et vous êtes de retour à Café CKUT 90.3. Il est 6h27. Ici Anthony, je suis avec Esther et c'est le grand moment que tout le monde attendait. Nous allons parler du Festival de Fantasia de Montréal qui arrive à grands pas.
Ah oui.
Esther, est-ce que tu as regardé un peu tranquillement la programmation, des conseils?
Oui, tout à fait. Éplucher ça, c'est assez incroyable, n'est-ce pas, puisqu'il y a tellement de films. Mm-hmm. Le festival débute le 15 juillet et s'achève jusqu'au 3 août, il me semble. Donc, il y en a pour tous les goûts dans cette folie Fantasia. C'est le premier Fantasia en présentiel depuis...
Ah oui, 2 ans au
moins. L'an passé, il y en a eu quelques projos, mais c'était vraiment quelques films. Donc, c'était surtout en ligne les 2 dernières années. Donc, imaginez tout ce qui est table ronde, panel, questions-réponses. C'était en ligne, c'était un peu claustrophobique, n'est-ce pas? Donc, là, c'est de retour en grand. Et puis, ouais, et c'est assez fou, quoi, je dirais, puisque...
Ici, ouais. Je suis sur le site de Fantasia et je vois une citation de Quentin Tarantino qui dit que c'est le plus grand et important festival de genre en Amérique.
Donc, ouais,
aide-moi à comprendre, c'est quoi les caractéristiques de ce festival-là?
OK. Voilà, c'est une très, très bonne question. Donc, je vous dirais que c'est un regroupement de films, de genres, de films edgy, des films de marge, des films marginaux, mm-hmm. qui regroupent, des films... d'action. Le festival a débuté dans les années 90, principalement avec des films asiatiques. À ce moment-là, c'était très célébré. Donc, ce sont des films japonais, mm-hmm. Hong Kong, donc les films de combat, les films fantastiques, les films foufou japonais, comme on peut en voir. Et de fil en aiguille, bien, ça s'est allergé à les films... de toute la planète.
Ouais, ouais, ouais.
Et je dirais que Tarantino se sent à l'aise à dire cette phrase-là, à promouvoir, puisque lui-même fait des films qui ne sont pas pour tous, des films, violents, marginaux, avec au deuxième degré.
Oui,
c'est pas gratuit de films d'action.
Mm-hmm. Ouais.
Donc, il y a beaucoup de films de la marge. Donc, films de la marge. On peut parler de films de genre, de films d'horreur. Et...
donc, le Fantasia est beaucoup dans l'horreur et dans le tout croche, là, un peu sale.
Sale,
c'est un drôle... loin, ça allait trop loin.
Sale, c'est un drôle de mot. Sale pour toi dans ta tête, peut-être.
Oui,
que...
exact, c'est ça que oui.
Peut-être que ça veut dire gore, avec du sang qui dégouline.
Oui, c'est un peu à ça que je pensais. C'est pas tout épuré, propre, avec des belles couleurs, là.
C'est sûr que y a pas Alice au Pays des Merveilles.
Ben, c'est à ça que je pensais.
Donc, c'est ça. Par exemple, on va célébrer John Woo. Mm-hmm. John Woo, c'est un réalisateur de Hong Kong qui a fait tellement de films dans sa vie, qui a travaillé principalement en Hong Kong, mais aussi avec les États-Unis. Et il y aura deux films... Bon, John Woo va recevoir un prix d'excellence qui souligne l'ensemble de sa carrière. Également, bien, il y a deux films, à ma connaissance, qui vont être présentés, dont un film qui s'intitule Hardwire. Et c'est assez, assez incroyable comme film. Je dirais que, oui, la bande-annonce de ce film-là fait beaucoup de sang dégoulinant, mais si tu regardes ces films attentivement, wow, c'est des films avec des intrigues et une façon de mettre en scène tout à fait élégante et ingénieuse. John Woo disait lui-même qu'il était inspiré par le cinéma européen, des films noirs européens, des grands maîtres français.
Mm-hmm.
Et il a travaillé au début de sa carrière avec les Shawn Brothers qui produisaient tellement de films. Il faut se mettre en contexte qu'à Hong Kong, dans les années 80, il y avait tellement de marché pour produire des films. C'était fou.
Dans le pays.
Dans le pays.
Le monde écoutait les films. Là,
de... ben, les gens écoutaient et il y avait beaucoup de maisons de production. Mm-hmm. Et il faut croire que les gens aussi allaient voir ces films-là. L'un des... Je n'ai pas ma page avec moi, malheureusement, mais un des acteurs fétiches de John Woo, qui est dans A Better Tomorrow 1 et 2 et 3, et dans Hardboiled. Malheureusement, je n'ai pas ma page avec moi. Son acteur, vraiment, qui a beaucoup de premiers rôles, seulement en 87, il a joué dans 11 films.
C'est quand... Dans la même année?
Ouais. Donc,
efficace.
Incroyable. Donc, il y avait une demande pour cet acteur-là. Et je pense que...
Et au fond, Fantasia s'est abreuvé de cette manne-là, de cette entre intensité-là.
Autres. Oui, entre autres, puisque... Oui, il y a toujours des films de Hong Kong qui sont présentés. Mm-hmm. Encore aujourd'hui, il y a une bonne production, mais beaucoup moins qu'avant. Le Japon est un très bon marché. Les Japonais sont assez incroyables, puisque oui, ils sont forts en suspense, films d'horreur, mystérieux, films de fantômes. On pense à Takashi Miike aussi, qui touche beaucoup de catégories mm-hmm. de ces genres-là. Il y a eu une période, Takashi Miike, qui produit un film, au moins un film par année, des fois deux. Je pense qu'il slow down, entre guillemets, un peu maintenant, mais les Japonais ont des super talents qui s'harmonisent très bien avec le créneau de Fantasia. Donc, il y a toujours des films japonais à Fantasia. Et que ce soit des films d'horreur, que ce soit des films fantastiques, des films très rigolos, entre guillemets, on s'ennuie jamais. Il y a des films très cultes qui ont fait histoire à Fantasia. Cette année, bien, en parlant de films asiatiques, ben, il y a un regard particulier sur le cinéma d'animation coréen.
Oh.
Les Coréens aussi se démarquent vraiment bien avec leur production. On peut détecter un type de narratif chez eux qui est assez intéressant. C'est des films super longs et qui débouchent toujours à démonter, à ouvrir la clé du mystère à la fin. C'est souvent un typique narratif coréen. Il y a aussi...
Oui, il présente, je regarde vite, là, mm-hmm. 7-8 cinémas d'animation coréens, juste ça.
Ouais, c'est déjà assez pointu, hein, c'est... Je m'y connais pas en cinéma d'animation coréen, donc ça sera l'opportunité.
Je peux en nommer si tu veux.
Ouais,
Seoul Sorry de Kyung Bae Kim, A Sip of Water de Cho Yun Na, My Moon de Leo Hun Sung, et comme ça je descends la page, là, The First Class de Kim Young Hoon, The Animal Books de Chong Hyuna et de Kim Soo Jeon, The Dead Vend. Puis là, c'est juste une petite catégorie. Je trouve ça fou à quel point que c'est une catégorie qui a beaucoup de films.
Oui, en soi, il y a beaucoup de films.
Wow. Ça me rassure. Je suis rassuré parce que ça me rassure quand je découvre un univers que je connais rien. Ça me rassure qu'il y a des univers éloignés qui sont loin de moi. Genre, d'abord de... Comment je fais ça? Une des choses qui arrive à notre époque avec Internet, on a accès à la connaissance dans notre poche. On a accès à pas mal toutes les œuvres d'art classiques sur notre cellulaire si on cherche. Mais quand je découvre un milieu un peu louche, ou loin de moi, l'animation coréenne...
Louche.
Non, mais pas... Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas louche en tant que tel, mais je veux dire, ça me rassure qu'il y a des poches de culture alternative, marginale, qui se rendent pas à moi.
Oui, c'est bien. Et Fantasia, et justement, c'est leur devoir de rendre les choses marginales accessibles.
Oui.
Et c'est toujours une célébration. La foule est en délire. C'est toujours une fête incroyable. Mais pour revenir à tout à l'heure, l'acteur, je pense, un des acteurs préférés de John Woo, c'est Yon Fat Cho, il s'appelle.
Wow, tout un nom.
Et il est super charismatique et puis c'est un divertissement incroyable de voir A Better Tomorrow et voir The Hard Boiler à Fantasia. C'est un film
donc,
rétro.
A Better Tomorrow, c'est un film de 1986
ouais,
que je
c'est
vois
ça.
Sur ton écran. Okay.
Et Hard Boiler, c'est dans les années 90.
Je prends ça en note dans mon cellulaire, parce que j'ai tout le savoir de l'humanité dans mon cellulaire, on se souvient.
Oui, on a tous... Et puis, si vous aimez Dario Argento, bien qu'il y a un classique du cinéma d'horreur italien, bien son dernier film va également jouer. Donc, il y a des petites perles comme ça qui... Oui, c'est ça.
Est-ce que toi, il y a des films en particulier que t'aimerais voir à
Fantasia? Je suis curieuse de voir le dernier Takeshi Miike qui s'appelle The Mole Song Final. C'est décrit comme une ça fait partie d'une de ces trilogies surréalistes d'humour salace et aux personnages plus grands que nature.
Humour salace.
Ouais. Donc, ça promet... Donc, il touche toutes sortes de catégories, Takashi Miike, du genre film de fantômes, mais aussi suspense d'horreur malaisant, que des films d'action très, très brutales, tellement brutales que c'en est over the top, trop drôle. Et là, apparemment, ça parle de mafia, de pâtes alimentaires... à l'italien. Donc,
oh,
OK.
Mon Dieu.
Donc,
c'est éclaté, là.
Ouais. Incroyable. C'est loin de I See the Killer qu'on a pu voir il y a quelques années.
Ben, tu me donnes le goût,
donc,
en tout cas, d'aller voir.
C'est du délire incroyable.
Ben, j'aimerais ça. Je te donne une mission, Esther. Réussir à nous avoir une entrevue avec un réalisateur ou une réalisatrice
ah, oui,
de Fantasia.
Ah oui, tout à fait. Oh, oui, c'est même pas un défi. Okay. C'est dans l'agenda.
Ouais. Ah bon, ben OK, bon, c'est 10 entrevues, je vais te mettre ça plus difficile.
Voilà, c'est plus difficile. Hein. Mais il y a une productrice qui va venir à Café.
Ah oui, pour en parler.
Parler de Fantasia, elle travaille sur... elle est en train de développer un documentaire sur les femmes qui travaillent dans l'industrie du film de genre, que ce soit des actrices, des réalisatrices, maquilleuses, personnes qui s'occupent des effets spéciaux. Donc, elle est basée à Toronto, elle est productrice d'une télévision, une chaîne de télévision francophone.
Okay.
En Ontario, et puis ben, elle sera de passage à Café dans une semaine. Donc, c'est un peu une surprise. Et puis, et également, avant d'oublier, il faut passer un peu en
oui,
pause publicitaire.
Mais en fait, ce que j'avais le goût de te proposer, Esther, c'est qu'on écoute la belle capsule que Lynn nous a préparée
oui,
à Rimouski et qu'on place nos publicités tout de suite après.
Juste après, oui, très bien, très bien.
Donc, Lynn nous a concocté une belle petite capsule sur le bord du fleuve. Elle va nous parler du film Les Échos du Moulin. Donc, c'est parti pour Lynn.
À l'antenne de CKUT au 90.3 FM à l'émission Café. Je vous parle toujours. Dans les prochaines semaines, on va faire avec ma collègue Virginie le tour des MRC entourant la MRC de Rimouski-Neigette pour faire des projections en plein air gratuites de documentaires. Donc, ce soir, quand je vous parle, on est le mercredi 6 juillet. Donc, pour vous, c'est avant-hier soir. Le documentaire qui va être projeté à Sainte-Félicité s'appelle « Les échos du moulin ». C'est réalisé par Philippe Chaumette. Donc, le documentaire, ça met en scène les résidences du moulin. En fait, pendant un certain temps, des artistes émergents peuvent bénéficier d'un studio pour pratiquer et pour composer. Ils sont en colocation avec Daniel Saint-Pierre, le propriétaire de la bâtisse, qui est vraiment une boule d'énergie, une boule de bienveillance et plein d'anecdotes. Et à la fin de leur résidence au Moulin, qui peut durer une semaine, là, en ce moment, je pense que c'est vraiment une semaine, mais dans le temps du film, il me semble que c'était plusieurs semaines, les artistes font une représentation musicale pour les gens du coin, ce qui est toujours évidemment super apprécié par les habitants du Bic où le Moulin est situé. En fait, le film est tout fait en noir et blanc, ça peut amener comme un côté nostalgique au film, mais le film est vraiment pas triste, là. Personnellement, quand je l'ai regardé, ça m'a seulement amené de la bonne humeur et de l'inspiration. Dans le fond, le Moulin, où les résidents et Daniel Saint-Pierre habitent, c'est vraiment un centre de rassemblement. Tout le monde évolue dans un esprit de communauté et d'entraide. Dans le fond, Daniel travaille le bois comme passion et comme gagne-pain. Puis on ressent vraiment dans ses interventions son amour du travail et les valeurs qu'il porte de persévérance. C'est vraiment évidemment des valeurs qui transparaissent dans sa colocation avec les artistes. Puis il y a un passage qui m'a marqué où Daniel parle de son rapport à la productivité. Dans le fond, il mentionne qu'il préfère de loin travailler à son rythme et rester ouvert aux surprises et aux détours que ça peut amener plutôt que de se concentrer à l'extrême sur la productivité, puis pas voir qu'est-ce qui se passe autour de lui, puis les opportunités qui peuvent arriver ou les distractions qui peuvent finalement être positives. Daniel parle aussi du fait qu'il adore le fait de se mettre à l'action le moment où il décide de commencer un projet. Puis il encourage énormément les artistes qu'il héberge de eux aussi se mettre à l'action et aller rechercher leurs objectifs. Et c'est super motivant pour les gens qui font les résidences. En fait, le film est sorti en 2019, mais malheureusement, avec la pandémie, on sait qu'elle est arrivée un peu après. En 2020, le documentaire n'a vraiment pas eu l'attention qu'il méritait. Donc, on est vraiment super content de pouvoir le projeter gratuitement au Bas-Saint-Laurent cet été. Si vous passez par là, ce sera le 26 juillet, la prochaine fois, à la baleine endiablée, au Kamouraska, et le 25 août à Le Jeune. Mais c'est tout sur notre page Facebook Paraloeil, qui s'écrit P-A-R-A-L-O... attendez, je vais recommencer pour être sûre. P-A-R-A-L-O-E-I-L. Donc, on est sur Facebook, Instagram, puis on a un site Internet aussi, avec toutes les dates, tous les lieux et tous les films qui vont être projetés. En tout, on organise une trentaine de projections gratuites jusqu'à la fin août dans tout le bas du fleuve. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner puis à venir nous voir si vous passez dans un trip au Bas-Saint-Laurent pendant vos vacances. Ça nous ferait full plaisir de vous voir dans nos projections. Puis pendant que j'y suis, les résidences du Moulin sont encore d'actualité aussi, même si ça a été fait en 2019, le film. Ça se passe encore, il y a encore des résidences, il y a encore des artistes qui vont là-bas pour... profiter de cette belle colocation-là. Donc, vous pouvez aussi vous renseigner davantage sur leur page Facebook qui s'appelle Les Résidences au Moulin. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Je vous reviens bientôt avec un autre petit documentaire à vous présenter. Et en attendant, je vous souhaite une super belle fin de semaine et un bel été.
La Fondation Fabienne Collas et la Banque TD vous invitent au 16e Festival Haïti en folie du 25 au 31 juillet. Au programme Bingo Night avec Caco, gastronomie, artisanat, littérature, spectacle gratuit de Corneille, Bello, Paul Beaubrun, Will Butler Dark and Fire, Wesley, Rebecca Jean, Kelly Crow, Yama Laurent, Raccoon, Défilé Rara et plus de 150 artistes. Aïe, aïe, aïe! Haïti en folie, c'est Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 31 juillet au Quartier des spectacles, Parc La Fontaine et Cabaret La Tulipe. Info haitienfolie.com.
Le Festival international de Nuit d'Afrique is back with its free outdoor programming from July 9th to the 24th in Montreal. Meet at the Patière in the Quartier des spectacles and on the new L'Esplanade Tranquille. For the first time, a second scene for twice as many concerts and free activities for the whole family. On the program, concerts, open-air workshops, DJ sets, restaurants with tropical flavors. And don't forget the Timbuktu Market. Discover the festival like you've never seen it before. Programming on festivalnuitdafrique.com.
Et vous êtes de retour à l'émission Café à CKUT 90.3. Il est 6h46. Anthony à l'appareil avec Esther à mes côtés. On continue on continue un peu avec le Festival de jazz international de Montréal. Je vais vous proposer l'artiste Cédric Burnside. C'est à la fois un compositeur, un interprète, mais surtout, je dirais, un guitariste blues. Sa discographie commence en 2006 avec l'album The Records, jusqu'à son dernier album intitulé I Be Trying, lancé en 2021. Je vais vous proposer la chanson Step In. C'est un bon blues bien traditionnel, bien ressenti. Il va assurément vous faire taper des pieds. En tout cas, je l'espère. Puis si vous aimez ça, ben, vous pouvez aller l'écouter ce soir en vrai à 21h à Montréal, à la scène Rogers. Donc, lançons-nous avec la chanson « Step In ». ».
I feel like a bird with broken wings. I can't fly back up in a tree. Like an addict fiending for crack. Trying to break the habit, but it keep on coming back. Like a child crying all night long. I hope it was some food, but it's all gone. I'm lost and can't be found. I'm boat with a hole that's slowly sinking down. Like a bully that putting me to the test. Got me paranoid and I can't get no rest.
Quelle finale de Cédric Burnside, la chanson Step In. J'espère que vous avez aimé, parce que si vous avez aimé, vous pouvez aller le voir en vrai ce soir à 21h à la scène Rogers. Il nous reste peu de temps, mais je pense qu'on a le temps encore pour une autre proposition. Je vais me gâter Soons, le groupe montréalais de rock électronique, un peu légendaire. Soons sera en show ce soir à 23h au Club Montréal TD, toujours dans le cadre du festival. Je me souviens encore de l'effet qu'a eu sur moi le nouveau son. Il faut mettre des guillemets à nouveau, là, mais le nouveau son de leur premier album, Zero's QC, qui est sorti en 2010. J'arrivais à Montréal quand je l'ai découvert. Depuis, les membres du groupe ont un peu changé. Il y a eu 5 albums qui ont vu le jour, dont le dernier en date qui s'appelle The Witness. The Witness, c'est le dernier album. Et c'est dans cet album-là qu'on retrouve la pièce The Witness Protection. Qu'on va écouter pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc, on va entendre Witness Protection de Soons. Il joue ce soir à 23h. Si vous avez le goût de danser, d'écouter de la musique forte, c'est là que ça se passe. Bye.
Bonsoir à tous, re-bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture du vendredi, il est 6h54. On va bientôt terminer l'émission, on va écouter d'autres pièces de jazz. Donc, c'est demain la dernière journée du Festival de jazz, mais ce soir, il y a au Diaz 11, sur Saint-Denis, pas très loin de Duluth, des super groupes. À 7h30, il y a Montréal Jazz Trio et le contrebassiste Adrien Vedadi. Désolé, il est super bon. Il joue avec Steve Amiro au piano et Jim Donksas à la batterie. C'est un classique montréalais également. Également, toujours au Diazance, mais là, à la 21h30, bien, Machination, composée de Éric Rieux au saxo, Rémi-Jean Leblanc à la basse, et Morgan Moore également à la basse, et François Jalbert
beaucoup de guitare.
À la guitare, et Louis-Vincent Hamel à la batterie. Ouais, Yannick Rieux, c'est un autre classique. Au Diazance, il joue... vraiment beaucoup, souvent. Donc ça, c'est à 21h30.
On vous encourage à y aller parce que Montréal a perdu un bel endroit pour écouter du jazz et ça vaut la peine d'encourager ceux qui restent.
Oui, et puis il y aura un autre demain, un autre bon groupe au Diazance qui s'appelle Normand Guilbault Ensemble qui se concentre sur les pièces de Mingus. Donc, ouais, ça promet. Ça doit vraiment... Il doit avoir une super atmosphère au Diazon ce jour-ci. Donc, écoutons justement ce Montréal Jazz Trio.
Oui. Ça finit comme ça. Bonne soirée, tout le monde.
Bonne soirée. Puis, à la semaine prochaine, on va parler amplement de films.
Et de tout, comme
d'habitude. Au revoir. Bonne fin de semaine.
Thank you. You're listening to 90.3 CKUT. This is Listening to Latin America.
Y esto es, como ya dijo Julián, Listening to Latin America. Nuevo año, nueva vida. Felicitaciones a todos los que llegaron acá después de